19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Il est un des sages de l'archéologie, incontournable spécialiste de la préhistoire et notamment de son art. Parce qu'il étudie les pratiques symboliques des chasseurs-cueilleurs du paléolithique, il a travaillé avec des psychanalystes et ses recherches l'ont entraîné en France, en Espagne, dans le Mato Grosso brésilien. On lui doit aussi une belle synthèse sur l'art préhistorique dans le monde, parue chez Gallimard dans la collection L'Univers des Formes. Qui de mieux que Denis Vialloux pouvait se lancer dans un tour d'horizon des dernières découvertes, un état de l'art préhistorique. Denis Vialloux, bonsoir.
Bonsoir Vincent Charpentier.
Professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle, vous êtes ce soir dans le magazine d'archéologie de France Culture, car les recherches sur l'art semblent aujourd'hui s'accélérer, notamment les découvertes, celles de grottes en Espagne, ou l'extraordinaire Vénus de Renancourt en sont de bons exemples. Voici peu, Denis Vialloux, nous apprenions surtout que les limites temporelles de l'art étaient encore repoussées. L'art de notre fameuse grotte Chauvet n'est plus le plus vieux au monde, détrôné par celui d'une île indonésienne ?
Peut-être bien, mais je n'en suis pas convaincu, cher Vincent, parce que finalement, que se passe-t-il dans la recherche ? On donne notre credo absolu aux physiciens, qui eux font leur travail, et on applique ainsi des datations que l'on ne maîtrise pas et qui sont des références à un temps universel. Et en ce qui me concerne, je préférerais que l'on raisonne sur les cultures et sur la mosaïque des cultures dans le monde plutôt que de rapporter à 40-60 000 ans une découverte et immédiatement la comparer, ce que vous avez fait tout à l'heure, à Chauvet. Bon, Chauvet existe en tant que Chauvet et complètement extérieur à tout ce qui se passe en Indonésie dans cette période ancienne. Alors, la question de fond, c'est moins la chronologie. Le temps absolu n'existe que pour les physiciens, il n'existe pas pour les cultures, on le voit bien. Mais la véritable question, me semble-t-il, c'est celle qui touche l'homme en tant qu'homme. C'est-à-dire, un point qui vous intéresse, je le sais, sur l'émergence de l'art dans l'homme, chez l'homme, et les évolutions que l'on peut enregistrer dans des perspectives régionales. Je n'ai rien à voir, je le regrette, avec les San d'Afrique du Sud qui ont fait un art absolument magnifique. Et je n'ai rien à voir avec le premier art, premier entre guillemets, australien. C'est complètement, mais complètement indépendant de ce qui s'est passé à Chauvet dans des périodes comparables. En revanche, sur le niveau du fonctionnement humain, on peut se poser des questions. Et pour ma part, je ne suis pas complètement convaincu que tout ce qu'on rapporte à l'art s'adresse simplement ou principalement au cerveau ou à l'intelligence. Parce qu'on va retrouver tout à l'heure la problématique avec Néandertal. Non, je pense que c'est tout le corps humain qui s'engage dans ces représentations, et notamment au niveau émotionnel. Eh bien, si on commence à raisonner comme ça, on prend une certaine distance à un langage logique comme un langage mathématique, 2 plus 2 égale 4. Oui, alors, est-ce que 2 plus 2 égale 4 existait pour ces découvertes en Indonésie, etc., etc.
Vous êtes certain un peu sceptique. En revanche, on ne connaît absolument rien, bien sûr, de la culture matérielle, de la société, donc, sur cette île indonésienne. Vous avez vu cet art, donc, l'art de la grotte Leangbulu Sipang?
Non, je l'ai pas vu, mais comme tout le monde maintenant, j'ai vu ça sur Internet. Et d'ailleurs, ça pose des problèmes scientifiques sur le fond, parce que Internet, c'est fulgurant. C'est-à-dire que ce qui est valable et ce qui est reconnu dans Internet, c'est sa célérité, sa rapidité. En revanche, on s'aperçoit que beaucoup des découvertes que vous mentionnez à juste titre ne sont finalement que signalées sur Internet et des années après, on n'a pas davantage approfondi telle ou telle découverte. Et ça, c'est troublant. C'est-à-dire que...
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de publication ?
Il y a pratiquement très peu de publications où on attend. Et comme on attend quelques années, par malchance, il y a toujours une nouvelle découverte qui vient bouleverser la chronologie en mesure absolue du temps, qui n'est pas forcément la bonne référence. Vous voyez que j'espère n'être pas trop confus en
disant j'ai compris, ça. En tout cas, que c'était une sorte de course à l'échalote, non ? Un peu ?
Oui. Sûrement, quelle échalote, j'en sais rien, mais il y a sans doute plusieurs...
Le scoop.
Mais c'est vrai, alors ça joue, bien sûr, ça joue pour l'intérêt des découvertes et leur médiatisation. C'est important d'en parler, mais en revanche, ça sera encore plus important de se prendre le temps d'analyser sur le fond. Alors cette grotte de l'île de Sivalik, là en Indonésie, c'est sûrement une très belle découverte, hein. Moi je n'ai rien contre. Et ce que l'on en voit sur les premières publications montre l'intérêt archéologique, mais la raccrocher à quoi ? La raccrocher à quoi ? Est-ce qu'on s'en tient à la datation absolue qui est faite ? Ou est-ce qu'on met
43, 44 000 ans.
Oui, voilà. Ou est-ce qu'on met cette découverte dans la perspective évolutive des cultures dans le monde indonésien et qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passait au fin fond de la Bretagne paléolithique, par exemple.
Alors, on ne les comparera sûrement pas donc avec Chauvet ou d'autres grottes. Ce qui est relativement intéressant, c'est que on aurait affaire à des représentations narratives. Et ça, en revanche, c'est une chose que l'on ne connaît pas du tout dans l'art paléolithique de l'ouest de l'Europe.
Oui.
À part quelques exceptions.
Mais bon. À part quelques exceptions, en effet, vous connaissez bien. Mais Vincent, l'art paléolithique en Europe, c'est une nappe culturelle, chronologiquement bien située dans le temps, mais ce n'est pas l'art universel. Nous avons, vous et moi, en discutant de ça, nous avons une sorte de respect confus pour toute la découverte de la préhistoire au XIXe siècle et au XXe siècle, tout ce que le colonialisme culturel et scientifique accompagnait, c'est-à-dire que nous voici en train de rapporter une discussion indonésienne sur une problématique paléolithique. Et une fois de plus, je dirais dans le monde, on va dire, regardez-les en Europe, ils pensent toujours qu'ils sont à l'origine de ça. Eh bien, pas du tout, et hop, on va accumuler ces découvertes. Vous voyez que mon point de vue est quand même très, très critique, hein.
Les représentations narratives, pour vous, est-ce qu'il y en a dans cette grotte ?
Alors, de ce que j'ai vu, des images que j'ai vues, c'est pas très très clair, mais c'est ce qui est dit par les inventeurs, donc il faudrait se plonger dans une publication plus précise. Ce qui est vrai, c'est que nous, notre élément de comparaison culturelle, le paléolithique, était démuni de cette puissance évocatrice, descriptive des narrations d'événements.
Un récit.
Mais si on fait attention à tout ce que l'on découvre ici et là dans le monde, on peut s'apercevoir que dans ce qu'on appelle l'art rupestre, c'est-à-dire les représentations en plein air, en abri, eh bien le narratif, quand il existe, reste minoritaire. Il peut être absolument passionnant, mais il reste minoritaire. Je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être, au niveau anthropos, au niveau de l'homme, dans la préhistoire, des sortes de biais, de raccourcis que l'on emprunte et d'autres pas. Et le narratif, qui est passionnant, exclu du paléolithique, je crois que c'est vrai globalement, est utilisé dans un certain nombre de cas, mais de façon très limitée. Je prendrai un exemple. Au Brésil, dans le nord-est brésilien, au Piauí, il y a un certain nombre de sites, une demi-douzaine de sites, dans lesquels il y a des scènes évocatrices, narratives. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce sont des scènes à connotation sexuelle. Alors, je trouve très drôle, par les temps qui courent en France notamment, de parler de toutes ces narrations sexuelles qu'on censure, qu'on décensure, qu'on élimine, etc., etc. Mais on s'aperçoit qu'en plein cœur de la préhistoire, ces narrations existent. Mais ces narrations sont très limitées. C'est-à-dire que l'extrême majorité des représentations humaines dans cet art rupestre du nord-est brésilien et d'ailleurs d'autres régions du monde, l'extrême majorité est faite de personnages sérieux, en quelque sorte, qui n'ont pas ce type de relation. C'est-à-dire que, au moment où on crée du narratif, on crée quelque chose de nouveau. Mais on va pas forcément s'en tenir à ça. Il y a d'autres entités qui sont plus fortes, me semble-t-il.
Denis Vialou, toujours en Indonésie. Les chercheurs y voient aussi des figures mi-humaines, mi-animales. Les fameux thérianthropes, une sorte de zoanthropologie, de zoanthropie même. Ça, c'est quelque chose que l'on connaît bien dans de nombreuses cultures. Je vais citer une fois de plus le paléolithique, mais on connaît ça aussi dans le néolithique du Messac ou ce genre de choses.
Oui, tout à fait. Vous faites référence au Messac en particulier, et c'est très fondé, puisque là, il y a quantité de thérianthropes qui avaient été étudiés et publiés par un de nos collègues et amis français, Jean-Luc Lequelec. C'est vrai. Là, il y a une sorte d'insistance sur ces images qui confondent l'humain et l'animal. Mais si on réfléchit un tout petit peu plus sur nos propres religions, et en France sur la religion chrétienne, tiens, l'agneau de Dieu, mais c'est un animal. Que fait-on? Et le Saint-Esprit, comment le représente-t-on? C'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'image animale pour fonder un discours qui touche l'homme. Comme si l'animal était extérieur au péché, à la catastrophe humaine qui amène à la crucifixion d'un dieu, etc., etc. Non, l'animal prend une dimension universel. Donc les fameux thérianthropes, c'est absolument passionnant, mais je me demande si nous tous, nous n'en avons pas de temps en temps dans nos rêves nocturnes, des gens avec des visages horribles et des bras dans tous les sens.
Savoir si l'art émerge en Asie ou en Europe n'a, à mon avis, bien sûr, guère de sens. Il me semble plus intéressant de comprendre les conditions de l'émergence de l'art. Voilà un beau sujet pour vous, Denis Vialou.
Et vous avez raison de le poser tel que vous le posez, parce que c'est exactement ça. Alors, l'émergence, d'où procède-t-elle? Procède-t-elle de la société ou procède-t-elle de l'individu ou des deux en même temps? C'est quand même une question et un débat de fond. Parce que ces représentations, lorsqu'elles sont faites, concernent tout le monde. Au moment où elles sont faites, elles concernent peut-être que quelques individus. Donc je dirais, sur le plan d'une vision un peu globale, on peut s'interroger, individu ou société. Et on va avoir tendance à pencher du côté de société. D'accord. Tout à l'heure, je faisais une réflexion un peu introductrice en disant qu'il ne faut pas oublier les émotions. Et les émotions sont fondamentales dans la créativité. On pourrait s'appuyer là-dessus, sur ce dont sont capables les enfants et parfois les plus jeunes enfants, dont le côté ratio est encore limité. En revanche, le côté création ne l'est plus, et des enfants prennent une feuille de papier lorsqu'ils sont chez eux ou à l'école et transforment cette feuille en quelque chose qui tient à l'image. Ça peut être quelque chose d'élémentaire, des simples lignes, courbes ou pas, mais ça peut être beaucoup plus évolué. Voilà, on n'est pas dans le cerveau mature que l'on prête aux Indonésiens de Sulawesi ou aux auteurs de Chauvet.
L'émotion, c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé avec notamment des psychiatres.
J'ai travaillé en effet, et nous travaillons avec un groupe de personnes, de scientifiques qui sont spécialisés dans l'élaboration de soi-même, particulièrement des psychanalystes qui sont davantage en recul par rapport aux applications médicales et qui se permettent des interprétations extraordinairement libres. Et ils le justifient en disant « c'est de l'homme et on ne peut pas bloquer là-dessus ». C'est vrai qu'il y a une réflexion de fond que l'on peut avoir sur ce que le cerveau peut produire. Et ce qui est intéressant au niveau de l'évolution humaine, c'est le développement de la zone frontale du cerveau, c'est-à-dire l'élaboration des représentations. Ceci est tout à fait important. Oui.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Denis Vialou, on parlait de société et d'individus. En Europe, la question suscite de grands débats. On y croit, on n'y croit pas. Néandertal est-il le premier auteur des peintures pariétales et rupestres?
Peut-être ne l'a-t-il pas fait exprès. Je dis ça un peu en blaguant et pas tout à fait en blaguant, parce que ce qui est sûr, c'est qu'avec Sapiens, le Sapiens moderne, s'organisent des systèmes, dit bien des systèmes de représentation, dans les grottes ou parfois sur des objets, que jusqu'à présent, Néandertal n'a pas su constituer. Peut-être arrivera-t-on à ça, mais il me semble quand même que le Sapiens accède à un niveau de l'expression qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus développé qu'il ne l'est pour le moment chez Néandertal. Mais pourquoi pas ? Notre préhistoire est faite sans cesse de découvertes qui viennent plus ou moins bousculer tout ce que l'on croyait comme étant définitif et qui ne l'est plus. Cependant, l'évolution existe. Le phénomène évolutif existe et touche les hommes comme d'autres espèces animales dans le monde. Et l'évolution permet de repérer des séquences évolutives et d'autres qui sont relativement planes. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène constant, on regarde l'évolution comme un bien universel, non. Il y a des pauses, et on le voit d'ailleurs dans nos propres sociétés, dans ce 21e siècle, et tout ce qui se passe. Alors je dirais que là-dessus, Néandertal a encore des choses à défendre, et peut-être à proposer. Il n'empêche que, sans aucun doute, Lascaux a été fait par un sapiens.
Alors Dirk Hoffmann de l'Institut Max Planck a tout récemment fait remonter cet art à 65 000 ans, soit une époque où Néandertal était seul en Europe. Là, vous y croyez pas, vous êtes sceptique?
Alors je suis pour le moment sceptique, ce qui ne veut pas dire bloqué. Il y a toute une discussion scientifique, tout un débat scientifique qui s'est organisé ces derniers mois à propos de ces datations surprenantes obtenues dans des sites bien connus comme celui de la Passiègue à Monte Castillo ou comme d'autres sites à Maltraviezo par exemple en Espagne, même en plein sud, la Neja. Alors là, il y a un problème de fond qui est un problème physique de datation. Je ne suis pas compétent, n'étant pas physicien, je ne pourrais pas me permettre d'avoir un point de vue là-dessus. En revanche, je peux poser des questions sur ces datations telles qu'elles ont été établies. Tout un ensemble de préhistoriens dont je suis a réagi à ces datations, notamment celle de la Passiègue. Pourquoi la Passiègue ? On connaît bien, ce sont des peintures qui ont été découvertes au début du XXe siècle, ont été publiées. Et là, il y a une datation absolument surprenante à plus de 60 000 ans de ce que nous, on appelle un signe ou qui peut s'appeler un motif géométrique qui est en plein cœur du dispositif pariétal de la Passiègue. Et alors, on voit pas vraiment quel serait le rapport entre ce tracé et le reste de la grotte de la Passiègue. Ça paraît déraisonnable dans le sens que là, on sort du raisonnement archéologique normal pour aller ailleurs. Donc, je m'interroge.
Le sujet porte bien sûr sur l'art, mais surtout sur les capacités cognitives et symboliques de notre lointain cousin Néandertal.
Oui,
enfin, le vrai sujet, il est là.
Oui, le vrai sujet est là, vous avez raison. Et Néandertal a reçu des appuis importants de plusieurs préhistoriens, à quelques bons avocats qui défendent...
Un lobby néandertalien.
Un lobby néandertalien. Il y a quelque chose de cela, parce que ce sont des nouvelles dont on peut discuter, y compris à la radio, donc c'est intéressant. On n'a pas forcément des éléments très concrets là-dessus. Le cerveau néandertalien est bien sûr capable de ça, mais le cerveau sapiens est encore plus capable. Et là, il n'y a pas de doute, je parlais de l'organisation cérébrale, pour laquelle les neurosciences nous apportent quantité d'éléments d'analyse. Et je répète, il faudrait ne pas se limiter au cerveau, mais plonger dans ce qui est l'émotion. Et là, on est, du point de vue cérébral, dans des centres, dans des nodules, en quelque sorte, à la base du cerveau, qui génèrent un certain nombre de liens, qui sont des liens favorisant la satisfaction, on va plonger dans la dopamine. Mais c'est pas inintéressant, c'est-à-dire que l'homme, quelle que soit la structuration rationnelle de son cerveau, est capable encore d'avoir des émotions. Et c'est peut-être à travers ces émotions que naissent cette envie de représenter. Et pourquoi, dans ce cas-là, limiter Néandertal? On n'a pas vraiment de raison.
La récompense d'avoir fait une belle œuvre, bien sûr.
La récompense d'avoir fait une belle œuvre ou de vouloir la faire. Et ça, c'est tout à fait fondamental et ça existe déjà chez l'enfant.
Bien plus récente est cette belle découverte, une femme, une Vénus gravétienne d'environ 22 000 ans, découverte sur un chantier de l'INRAP dans la banlieue d'Amiens, la dame de Renancourt. Vous l'avez vue, Denis Vielloux?
C'est incroyable. Elle ressemble à beaucoup des statuettes de la préhistoire. Donc on peut la mettre dans la même famille. Et c'est une heureuse découverte, hein, cette découverte de Renancourt. Parce que elle fait exploser, abattre les barrières géographiques que l'on donnait à ces cultures du Paléolithique supérieur, en l'occurrence le Gravétien. Et c'est tant mieux. C'est-à-dire que il suffit de se baisser et ramasser sur le sol une statuette pour bouleverser complètement le schéma qu'on avait. Donc je dirais, c'est tant mieux. Moi, cela me réjouit. Maintenant, il faudra voir jusqu'où cela amènera, notamment dans les comparaisons.
Alors, elle a une coiffure, elle a des seins opulents, des hanches opulentes, des cuisses aussi extrêmement larges. Ce qui est aussi intéressant, c'est que il y en a 15 qui auraient été découvertes dans la fouille. Donc, on serait sur une sorte d'atelier de Vénus. Est-ce que cela peut nous renseigner sur la fonction même de cet art, d'avoir une sorte d'atelier?
Pourquoi pas? Peut-être bien. C'est-à-dire que ces représentations féminines, non isolées, appartiennent à une vision, à une conception d'ensemble. On retrouve quelque chose de comparable dans le Gravétien, même culture, mais cette fois-ci en Europe orientale, où il y a des groupements de ces petites statuettes féminines, comme si le corps féminin devait s'accompagner d'une force, d'une connivence idéologique et symbolique autour.
L'Espagne est actuellement à l'honneur puisqu'une nouvelle grotte, sanctuaire d'art paléolithique, vient d'être encore découverte en octobre, cette fois en Catalogne.
Oui, apparemment une grande grotte. Bon, je connais ce qui a été dit aussi par Internet.
Hein, vous attendez les publications?
J'attends les publications. C'est apparemment une très grande grotte et dans laquelle l'eau joue un rôle majeur. C'est-à-dire il y a un réseau hydrographique important. Et là, ont été découvertes quelques méchantes gravures. Oh, pardon. Quelques superbes gravures, je dirais. Non, alors quelques gravures qui sont relativement quelconques, c'est-à-dire sur le plan du graphisme, mais qui sont sans doute un apport dans la connaissance des représentations paléolithiques, des sites à gravure et à peinture, et se trouve en lien avec cette culture gravétienne probablement, et probablement des cultures plus récentes, que l'on connaît encore mal du côté espagnol, qu'on a davantage travaillé du côté français des Pyrénées.
Ah, j'avais cru voir que c'était plus récent, j'avais une date d'environ 15 000 ans pour cette grotte. En tout cas, elle aurait aussi des gravures, beaucoup de gravures, avec des sortes de symboles qui visiblement ne sont absolument pas datés du paléolithique.
Oui, probablement. Mais vous avez raison de rajeunir. Hein. Je faisais aussi un petit glissement chronologique bien involontaire. Hein.
Côté basque, une autre grotte vient de sortir, cette fois-ci publiée, dans une des très grandes revues d'archéologie, la revue Antiquity, bien sûr revue anglaise, qui publie la découverte de peintures dans une grotte donc du Pays Basque.
Oui, Alquerdi, c'est une des nouvelles galeries de la grotte d'Alquerdi, qui était une grotte connue depuis un certain temps, mal connue. Et là, on a affaire à du magdalénien, très probablement. Et ce qui est très intéressant dans cette grotte d'Alquerdi, ce sont les représentations de bisons. Et les représentations de bisons évoquent directement ce que l'on connaît du bison côté espagnol et côté français. Comme si cet animal, l'effigie de cet animal avait traversé la montagne et avait revêtu de nouvelles portées symboliques. Donc c'est une belle découverte.
Pourquoi tant de découvertes côté espagnol? La recherche y serait bien plus dynamique qu'en France?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. Ce qui est vrai, c'est que les intensifications de recherche en Espagne sont dues à l'organisation de la recherche par les différentes provinces ou États espagnols. Il n'y a pas la centralisation qui existe en France et à Paris, et il n'y a pas toute la structuration de la recherche à laquelle se mêle en France le ministère de la Culture. Donc c'est peut-être dû simplement à une meilleure organisation et aussi au fait qu'il y a beaucoup de chercheurs, jeunes chercheurs en Espagne.
Denis Vielleux, nous avons bien sûr évoqué les débuts de l'art figuratif préhistorique. La fin de cet art est aussi l'objet de belles avancées. Jamais aucun chercheur n'aurait pu penser qu'il y a 14 000 ans, l'art asilien pouvait représenter encore des bisons et des chevaux. Et nous avons pour cela deux très belles découvertes françaises.
C'est vrai, là vous avez raison, vous connaissez bien la question. Alors, on a un site breton extraordinaire qui
le rocher de l'impératrice.
Le rocher de l'impératrice qui domine la rade de Brest. Et alors là, c'est vrai que ce qui a été publié et qui commence à être très bien étudié, c'est fantastique parce qu'on a l'impression d'avoir des représentations animales magdaléniennes comme on en trouve en Périgord ou dans les Pyrénées, donc c'est un peu troublant.
Alors, un art breton tardif, mais...
Un art breton tardif, mais pourquoi pas ? Là aussi, cela fait sauter les verrous géographiques, voire chronologiques.
Et puis Angoulême,
et donc, Angoulême.
Encore plus récent.
Alors, Angoulême, encore plus récent. Bon, là, il s'agit d'une œuvre aussi également de gravure, de plaquettes de grès gravées, et là, avec des modes d'expression qui étaient complètement inattendus.
Denis Vielleux, une dernière question. L'art préhistorique est une manifestation de la pensée. Est-ce pour cela que les préhistoriens, les pariétalistes, comme ils se dénomment, ont tant de mal à le décrypter ?
Ah, vous avez raison, probablement. Quand on met sur le niveau de la pensée, sur le plan de la pensée, tout ce qui a été fait, on voit bien nos limitations.
Denis Vielleux, merci beaucoup.
Merci Vincent.
Carbon 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Lucas Derode, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Éric Crubezy, professeur d'anthropologie biologique, nous parlera de l'invention des rituels.